Chapitre 3. La chasse. Chez ceux du lignage, certains contes destinés aux tout-petits ont une valeur pédagogique. Il s'agit d'histoires simples qui enseignent les vertus en se servant d'animaux dont le comportement illustre certaines qualités admirables. Les gens qui n'appartiennent pas à ce groupe seraient sans doute surpris de voir le loup donné en exemple de dévouement à la famille, ou la souris louée de sa sagesse parce qu'elle fait des réserves en prévision des mois glacés de l'hiver. Le jarre qui monte la garde pendant que le reste de la troupe se nourrit est encensé pour son altruisme, et le porc-épic pour le soin qu'il prend de ne se battre que pour se défendre. La tribu du chat est l'indépendance. On raconte l'histoire d'une femme qui cherche à former un lien avec un de ses animaux, lequel propose qu'ils essayent leur compagnie mutuelle pendant un ou deux jours. Il demande à la femme d'accomplir certaines tâches, comme le caresser, le faire jouer avec une ficelle, lui apporter de la crème, et ainsi de suite. La femme se plie avec plaisir à chacun de ses désirs et les satisfait tous pleinement. Au terme de la période convenue, la vifière propose à nouveau de former un lien avec le chat, car il lui semble qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Le chat refuse en ces termes. « Si je me liais à toi, tu t'appauvrirais, car tu perdrais ce que tu préfères chez moi. Le fait que je n'ai pas besoin de toi, mais que je tolère ta présence. » Cette fable, dans la tradition du lignage, est une mise en garde. Il ne faut pas former de relation avec un animal incapable de prendre autant qu'il donne. Conte du lignage de Tom Blaireau.
Laisse-moi simplement te voir.
Tu m'as vu?
Je viens de me montrer à toi.
Cesse de me fatiguer avec ça et fais attention.
Tu as dit que tu apprendrais. Tu me l'as promis. C'est pourquoi je t'ai amené ici, où il n'y a rien pour te distraire. Deviens un marguet.
C'est trop difficile. Laisse-moi te voir avec mes yeux, je t'en prie.
Quand tu seras prêt,
quand tu sauras devenir un marguet aussi facilement que tu es toi-même, alors tu seras prêt à me connaître.
Elle courait en avant de moi. Je gravissais le versant à grands haons, et chaque buisson me retenait, chaque creux et chaque pierre freinaient mon pas. J'avais la bouche sèche. La nuit était fraîche, mais alors que je m'empêtrais dans les taillis, la poussière et le pollen m'obstruaient la gorge.
« Attends !»« La proie n'attend pas. Un marguet ne crie pas « Attends !» au gibier qu'il chasse. Deviens un marguet !»
Un fugitif instant, je crus l'entrevoir, et puis l'herbe haute se referma et elle disparut. Plus rien ne bougeait et je n'entendais pas un bruit. Je ne savais plus quelle direction suivre. Sous la lune dorée, la nuit était profonde et les lumières de Myrteville loin derrière moi, par-delà collines et vallons. Je m'apprêtais à prendre une goulée d'air, puis me ravisais, préférant respirer en silence, quitte à m'en étouffer. Je repris mon chemin d'un pas glissé. Au lieu d'écarter les branches devant moi, je les contournais d'un mouvement sinueux. Je m'efforçais d'ouvrir les herbes du bout du pied plutôt que de les écraser, et je déplaçais subtilement mon poids à chacun de mes pas soigneux. Que m'avait-elle appris d'autre?
Soit la nuit même.
Non. La brise qui agite les arbres, ni la chouette au silence inquiétant, ni la musaraigne qui se tapit sans bouger, soit la nuit qui enveloppe tout, qui glisse sur tout, qui touche sans être sentie, car la nuit est féline.
Très bien. J'étais la nuit, lisse, douce, noire et silencieuse.
Je m'arrêtais à l'abri d'un chêne. Ses feuilles étaient immobiles. J'écarquillais les yeux pour tenter de capter autant de lumière qu'il m'était possible. Lentement, je tournais la tête, évasais les narines, puis inspirais longuement et sans bruit par la bouche, tâchant de humer son parfum. Où était-elle? Quelle direction avait-elle prise? Je sentis en haut de mon dos un poids soudain, qui disparut aussitôt, comme si un homme vigoureux avait abattu ses deux mains sur mes épaules, puis reculé d'un bond. Je pivotais d'un bloc. Ce n'était que chatte. Elle s'était laissée tomber sur moi comme une feuille morte, puis avait sauté par terre. Elle était à présent ramassée sur l'herbe sèche et les feuilles marron qui parsemaient le pied de l'arbre. Elle leva les yeux vers moi, puis détourna le regard. Je m'accroupis à côté d'elle.
« De quel côté, chatte ?
De quel côté est-elle partie ?
Ici. Elle est ici. Elle est toujours ici, avec moi.
Les pensées de chatte faisaient dans ma tête un ronronnement grêle qui contrastait avec la chaude voix de gorge de ma bien-aimée. J'éprouvais une profonde affection pour ma Marguette, mais sentir son esprit toucher le mien alors que je me languissais de mon amour était presque insupportable. Avec douceur, je repoussais l'animal en m'efforçant de ne pas prêter attention à ses protestations indignées.
« Oui, ici, » fis-je dans un souffle. « Je sais qu'elle n'est pas loin. Mais où exactement ?»«
Moins loin encore que tu ne le crois. Mais tu ne me connaîtras pas tant que tu écarteras la Marguette. Ouvre-toi à elle. Deviens la Marguette. Fais tes preuves. »
Chat s'éloigna de moi d'un mouvement fluide, mais je ne savais dans quelle direction. C'était la nuit qui se coulait dans la nuit, et j'avais l'impression de chercher à distinguer l'eau que je venais de verser dans un ruisseau. Sans bruit, je pris une inspiration et m'apprêtai à la suivre, non seulement physiquement, mais aussi avec mon cœur. Je refoulai ma peur et m'ouvris à la Marguette. Chat réapparut soudain comme une ombre mieux définie que l'obscurité dont elle émergeait. Elle s'appuya contre mes jambes.
« Chasser ?»«
Oui, nous allons chasser. Nous allons à la recherche de la femme, mon amour. »«
Non, on nous chasse. Un animal est sur notre piste. Il suit chat et garçon dans la nuit. Vite, montez !»
Elle joignit le geste à la parole et grimpa souplement dans le chêne.
« D'arbre en arbre, il ne sentira pas notre voix là-haut. Suis-moi d'arbre en arbre. »
Je savais qu'elle sautait déjà d'une branche à l'autre, et elle attendait que je l'imite. Je m'y efforçais. Je bondis à l'assaut du tronc, mais il était trop épais pour que je l'escalade en l'enserrant des bras et des jambes, et pas assez rugueux pour donner prise à mes doigts dépourvus de griffes. J'y restais agrippé un instant, incapable de monter, puis je me mis à glisser en me retournant les ongles et en accrochant mes vêtements sur l'écorce rude qui me refusait. J'entendais à présent le prédateur approcher. C'était pour moi une sensation nouvelle et qui ne me plaisait pas de me trouver à la place du gibier. Il me fallait un arbre plus adapté. Je me mis à courir dans le bois, sacrifiant la discrétion à la vitesse, mais ne trouvais rien qui me convainc. Je décidai de monter le long du versant. Certains animaux de proie, comme l'ours, ont du mal à gravir une pente au galop. S'il s'agissait d'un ours, je parviendrais ainsi à le distancer. Je ne voyais pas quelle autre bête aurait le courage de s'en prendre à nous. Un jeune chêne me tendait les bras. J'accélérais et d'un bond m'accrochais à la première branche. Mais alors que je me hissais dans l'arbre, mon poursuivant parvint au pied du tronc, en dessous de moi. Je m'aperçus alors que j'avais mal choisi mon refuge. Isolé, il ne me permettait pas d'accéder aux arbres voisins, dont les rares branches proches étaient trop grêles pour supporter mon poids. J'étais acculé. En grondant, je regardais mon chasseur. Je plongeais mes yeux dans mes propres yeux qui plongeaient dans mes propres yeux qui plongeaient dans mes propres yeux, brutalement arraché au sommeil. Je me retrouvais assis dans mon lit. J'étais couvert de sueur. Et ma bouche était sèche comme de la poussière. Je roulais à terre et me redressais, désorienté. Où se trouvait la porte? La fenêtre? Je me rappelais soudain que je n'étais pas dans ma chaumine, mais ailleurs, dans une chambre qui n'était pas la mienne. À tâtons, je finis par découvrir une table de toilette. Je pris le broc et bus de longues gorgées de l'eau tiédasse qu'il contenait, puis j'y plongeai la main et me frottai le visage. « Au travail !» ordonnai-je à mon cerveau embrumé. Et le souvenir de mon rêve me revint. Œil de Nuit avait coincé le prince de Voir en haut d'un arbre, dans les collines derrière Myrteville. Pendant que je dormais, mon loup avait découvert le garçon. Mais je craignais que le garçon ne nous eût découvert lui aussi. Quelles étaient ses connaissances de l'art ? Avait-il conscience du lien que nous avions partagé? Brusquement, toutes mes interrogations s'effacèrent. Comme l'éclair déchaîne l'orage qui menaçait, l'embrasement qui emplit ma vision libéra la migraine d'art dont le martèlement me jeta à genoux. Et je ne possédais pas une miette d'écorce elfique. Mais le fou en avait peut-être. Aucun autre motif n'aurait pu m'obliger à me relever. Les mains tendues devant moi, je cherchais la porte, l'ouvris et pénétrai d'un pas trébuchant dans la chambre du fou, seulement éclairée par un petit nid de braise mourante dans l'âtre et la lumière vacillante des torches qui brûlaient dans le parc, devant la fenêtre ouverte. Je me dirigeais tant bien que mal vers le lit. « Fou, » dis-je d'une voix basse et rauque, « fou, œil de nuit, à quoi c'est de voir dans un arbre et... » Je me tus soudain. Le rêve
m'avait fait perdre de vue les événements de la soirée. Et si la forme ramassée qui soulevait les couvertures n'était pas celle d'un, mais de deux corps. Mais un bras repoussa le drap et révéla la présence d'une seule personne dans le lit. Le fou se tourna vers moi, puis se redressa, le front plissé d'inquiétude.
« Fitz, tu as mal. »
Je m'assis lourdement près de lui et me pris la tête entre les mains dans l'espoir de maintenir mon crâne d'un bloc. « Non, si, c'est l'art, mais ce n'est pas le plus urgent. Je sais où se trouve le prince. Je l'ai vu en rêve. Il chassait en compagnie d'un marguet dans les collines derrière Myrteville, et puis un animal s'est lancé sur notre piste. Le marguet est monté dans un arbre et le prince est grimpé dans un autre. Alors il a regardé derrière lui et il a vu Œil de Nuit en dessous de lui. Le loup l'a bloqué quelque part dans ces collines. Si nous y allons tout de suite, nous pourrons l'attraper.
Non, réfléchis. Impossible. J'ai l'impression que ma tête va s'ouvrir comme une coquille d'œuf.
Je me penchai en avant, le dos courbé, les coudes sur les genoux, les mains plaquées sur les tempes.
« Pourquoi ne pourrait-on pas aller le chercher ?»
demandai-je d'une voix mourante.
« Sers-toi de ton imagination, mon ami. Nous nous habillons et nous sortons discrètement de ces appartements. Nous prenons nos chevaux dans les écuries sans nous faire remarquer. Nous nous enfonçons de nuit dans une région que nous ne connaissons pas jusqu'à un arbre où le prince est perché, un loup en dessous de lui. » L'un de nous monte le rejoindre et le force à descendre, après quoi nous le convaincrons de rentrer avec nous. Et Sire Doré apparaît comme par magie, au petit déjeuner accompagné, je le vois d'ici, d'un prince de voir, à la mine très maussade. Ou bien Sire Doré s'éclipse en compagnie de son valet du manoir, où Dame Brézinga lui a offert l'hospitalité, le tout sans un mot d'explication. Dans les deux cas. Il se pose, quelques jours plus tard, quantité de questions gênantes sur le seigneur Doré et son serviteur Tom Blaireau, sans parler du prince de voir.
Il avait raison. Nous soupçonnions déjà les Brézinga d'avoir pris une part active dans la disparition du prince. Le ramener chez eux serait pure folie. Non, il fallait nous emparer de lui de telle façon que nous puissions le raccompagner à Castelserre sans que personne n'en sache rien. Du bout des doigts, j'appuyais sur mes paupières closes. J'avais l'impression que la pression qui régnait à l'intérieur de mon crâne allait faire jaillir mes yeux de leurs orbites.
« Que faisons-nous alors ?»
demandai-je d'une voix pâteuse. Ma question était presque rhétorique. Je n'avais qu'une envie, me laisser tomber sur le flanc et me rouler en boule autour de ma souffrance. « Que le loup ne perde pas la piste du prince. Demain, pendant la chasse, je te renverrai au manoir chercher un objet que j'aurais oublié. Une fois seul, tu iras retrouver le prince pour le convaincre de retourner à Castelserre. Je t'ai choisi une grande monture. Prends-le en croupe, sans attendre, et ramène-le à la cour. J'inventerai une histoire pour expliquer ton absence. »
Laquelle ?
Je n'y ai pas encore réfléchi, mais je vais m'y mettre. Ne t'en fais pas pour cela. Quoi que je leur raconte, les Brézinga devront l'accepter sous peine de me faire affront.
Je repérais une faiblesse dans le plan du fou, bien que j'eusse du mal à ordonner mes pensées. Je convins le prince de revenir à Castelserre.
« Tu y arriveras, »
répondit le fou, avec une confiance inébranlable.
« Tu sauras trouver les mots. »
J'en doutais fort, mais je n'avais plus la force de discuter. Des lumières à l'éclat pénible brillaient sous mes paupières, et me frotter les yeux ne faisait que les aviver. Je les ouvris. Mais des zigzags étincelants déchiraient l'obscurité de la chambre.
De l'écorce elfique, fis-je d'une voix implorante. J'ai besoin d'écorce elfique. Non.
Je restais hébété, incapable d'accepter l'idée que le fou m'eût opposé un refus.
Je t'en prie. Repris-je avec difficulté, ce que j'endure défie toute description.
Il m'arrivait de pouvoir pressentir la survenue d'une crise, mais il y avait longtemps que je n'en avais plus été victime. La tension singulière que j'éprouvais dans la nuque et le dos n'était-elle que le fruit de mon imagination.
« Fitz, je ne peux pas. »
Humbre me l'a fait promettre. Plus bas, Comme s'il craignait de m'offrir un trop maigre réconfort, il ajouta
« Je resterai auprès de toi. »
Une déferlante de souffrance mêlée de peur me roula en tous sens.
« Veux-tu que je te rejoigne ?»«
Non. Reste où tu es. Surveille le prince. » Je m'entendis répondre à voix haute en même temps qu'en pensée. J'aurais dû me méfier, mais je ne savais plus de quoi. Je fis un effort pour m'en souvenir. « Il me faut de l'écorce elfique, » dis-je en articulant soigneusement. « Sinon, je ne pourrai pas me restreindre. Restreindre mon vif. On va me repérer. »
Le fou descendit du lit et je sentis les mouvements du matelas. Chaos atroce qui choquait mon cerveau contre les parois de mon crâne. Il se dirigea vers la table de toilette et revint un moment après, un linge humide à la main.
« Allonge-toi, » fit-il. « Pépin, »
marmonnai-je. Le moindre déplacement me faisait souffrir. J'avais envie de regagner ma chambre, mais j'en étais incapable. Si je devais avoir une crise, je ne voulais pas que cela se produise devant le fou. Le contact du linge froid sur mon front me fit un choc. Des hauts le cœur me secouèrent, et je me mis à respirer à petits coups pour maîtriser les spasmes de mon estomac. Je sentis plus que je ne vis le fou s'accroupir devant moi. Il prit ma main, ses doigts gantés palpèrent les miens, puis soudain, il me pinça durement la peau entre les os. Je poussai un cri et tentai de me dégager, mais comme toujours, il se montra plus vigoureux que je ne m'y attendais.
« Un instant encore, »
murmura-t-il, comme pour me rassurer. La douleur se mua en engourdissement, et peu après, il prit mon coude entre ses deux mains. Ses doigts me palpèrent à nouveau, puis me pincèrent cruellement.
« Par pitié !»
le suppliai-je en essayant de m'écarter de lui. Il accompagna mon mouvement, et la migraine me tenaillait tant que je ne parvins pas à lui échapper.
Pourquoi me faisait-il mal ?«
Ne te débat pas, » me demanda-t-il d'un ton implorant.
« Fais-moi confiance. Je crois pouvoir t'aider. Fais-moi confiance. »
Ses mains se déplacèrent encore, cette fois jusqu'à mon épaule, et ses doigts implacables m'infligèrent de nouveau une douleur cuisante. J'eus un hoquet de souffrance, puis je sentis ses mains de part et d'autre de mon cou. Les doigts enfoncés sous la base de mon crâne, comme s'il cherchait à détacher ma tête de mon corps. Je m'agrippais à ses poignets, mais je n'avais plus de force dans les mains.
« Un instant encore, »
fit-il, suppliant.
« Vite, vite, aie confiance en moi. »
Toute énergie m'abandonna soudain, et mon menton tomba sur ma poitrine. La douleur n'avait pas disparu, mais elle s'était grandement atténuée. Je m'affalai sur le flanc, et le fou me fit rouler sur le dos.
« Là, là !»
dit-il. Et pendant un court moment, je ne vis plus qu'une obscurité bienvenue. Tout à coup, les mains gantées revinrent. Les pouces se plaquèrent sur mon front pendant que les doigts partaient à la recherche d'emplacements sur mes tempes et le long de mon visage, et ils appuyèrent impitoyablement, les auriculaires enfoncés à la charnière de ma mâchoire.
« Inspire, Fitz !»
m'ordonna le fou, et je m'aperçus que j'avais cessé de respirer. Je pris une brusque goulée d'air, et tout s'apaisa soudainement. J'eus envie de pleurer de soulagement, mais je n'en eus pas le temps. Je sombrais dans un sommeil sans fond, et je fis un rêve étrange. Je rêvais que j'étais en sécurité. Je m'éveillais avant l'aube, l'esprit brumeux. J'inspirais profondément, et je me rendis compte que j'occupais le lit du fou. Lui-même s'était sans doute levé récemment. Il vaquait sans bruit dans la chambre, occupé à se choisir des vêtements. Il dut sentir mon regard posé sur lui, car il s'approcha de mon chevet. Il posa la main sur mon front et repoussa ma tête contre les oreillers.
« Rendors-toi, il te reste encore un peu de temps pour te reposer, et je crois que tu en as bien besoin. »
L'index et le majeur réunis, il traça deux lignes parallèles depuis la racine de mes cheveux jusqu'au bout de mon nez. Je me laissai aller au sommeil. Plus tard, il me réveilla en me secouant doucement. Ma livrée bleue m'attendait sur le lit près de moi,
et il était déjà vêtu de pied en cap.
« C'est l'heure de la chasse, »
m'annonça-t-il quand il me vit les yeux ouverts.
« Il va falloir que tu te hâtes, malheureusement. »
Je hochai prudemment la tête. J'avais des courbatures tout le long de l'épine dorsale et dans la nuque. Je m'assis dans le lit à mouvements raides. J'avais l'impression d'avoir été pris dans une rixe vigoureuse, ou d'avoir fait une crise. L'intérieur de la joue me cuisait comme si je m'étais mordu. Sans regarder le fou, je demandais « Ai-je eu une crise cette nuit ?» Il se tut un instant, puis il répondit d'un ton naturel
« Peut-être, oui,
mais sans gravité. Tu as agité un moment la tête et tu as été pris de tremblements dans ton sommeil. Je t'ai tenu dans mes bras et c'est passé. » Il n'avait pas plus envie que moi d'évoquer cet épisode. Je me vêtis avec lenteur, j'avais mal partout, et mon bras gauche portait de petits bleus sombres et circulaires, marque des doigts du fou. Je n'avais donc pas imaginé la force avec laquelle il m'avait pincé. Il vit que j'examinais mon coude et prit une mine compatissante.
« Ça laisse des ecchymoses, mais c'est efficace parfois, »
fit-il en guise d'explication. Les départs de chasse au petit matin étaient très semblables à Castelmyrte et à Castelserre. On sentait dans l'air une excitation réprimée. On expédiait le petit déjeuner debout dans la cour, sans guère songer au travail qu'il avait fallu aux gens de cuisine pour le préparer. Je me contentais pour ma part d'une chope de bière, car je ne me sentais pas de taille à ingurgiter davantage. Cependant, à l'instar de Laurier, j'eus la prévoyance de fourrer quelques vivres dans mes fontes et de remplir mon outre d'eau fraîche. J'aperçus la jeune femme au milieu de la foule. Elle était manifestement très occupée, tenant des conversations différentes avec quatre interlocuteurs au moins. Sire Doré déambulait calmement parmi la presse et saluait chacun avec un sourire chaleureux. La fille de Sire Omble ne le quittait pas d'une semelle, et mon maître répondait avec une attention courtoise à ses bavardages et ses éclats de rire. Il me sembla que le jeune civil en prenait un peu ombrage. On sortit les chevaux des écuries, scellés et la robe luisante. Manoir n'eut pas l'air affecté par l'atmosphère d'excitation générale, et encore une fois, je m'étonnais de son absence apparente d'énergie. Je trouvais aussi insolite le calme relatif qui régnait dans la cour, et je souris à part moi. On n'entendait pas les aboiements ardents des chiens qui attisent l'enthousiasme des hommes et piquent les chevaux, et cela me manquait. Les chasseurs et leurs gens se mirent en selle, puis on amena les marguets au bout de leurs laisses. C'étaient des animaux aux poils courts et lisses, au corps allongé, avec une tête qui me parut proportionnellement trop petite. Selon l'angle de la lumière, leur couleur fauve laissait apparaître de légères mouchetures. Leur queue, longue et gracieuse, semblait douée d'une vie propre. Ils avancèrent au milieu de la masse des chevaux aussi tranquillement que des chiens parmi des brebis. C'étaient des féropards, et ils savaient très bien ce qu'annonçait l'agitation qui régnait dans la cour. Sans aide, ou presque, chaque félin alla retrouver son maître. Puis, à mon grand ébahissement, on lâcha les laisses, et les marguets bondirent agilement sur les coussins à l'arrière des selles et s'y couchèrent. Dame Brézinga se tourna pour murmurer des mots affectueux à son animal, tandis que le féropard de civil posait une lourde patte sur l'épaule du garçon pour l'obliger à se pencher en arrière et pouvoir lui donner un coup de tête plein de tendresse dans le menton. J'attendis en vain de capter une manifestation du vif. J'étais certain que les Brézinga, mère et fils, le possédaient, mais ils le dominaient avec une maîtrise que je n'aurais jamais cru possible. Étant donné les circonstances, et malgré l'envie qui me tenaillait, je n'osais pas appeler œil de nuit. Le silence qu'il observait était si total que j'avais l'impression d'une absence. « Bientôt, me promis-je, bientôt. » Nous nous mîmes en route vers des collines où, selon Avoine, nichaient de magnifiques oiseaux dont la capture nous procurerait un excellent divertissement. Je fermai la marche avec les autres suivants, au milieu de la poussière des chevaux de tête. Il était encore tôt et pourtant la température s'annonçait déjà d'une élévation hors de saison. Les fines particules de terre soulevées par notre passage formaient un nuage épais qui restait suspendu derrière nous dans l'air immobile. Le terrain de la région était étrange. La mince épaisseur de sol herbu rompu par les sabots laissait apparaître une couche poudreuse qui me fit rapidement regretter de n'avoir pas emporté de mouchoir pour me couvrir la bouche et le nez, et qui décourageait toute conversation. Ce curieux terreau étouffait le bruit des pas des chevaux, et, en l'absence d'aboiement, j'avais l'impression que nous nous déplacions presque en silence. Nous quittâmes bientôt le bord de la rivière et la piste qui la suivait pour gravir à l'oblique une colline inondée de soleil, à travers des buissons gris-verts au feuillage desséché, et nous franchîmes ainsi, selon un trajet sinueux, des hauteurs et des vallons à l'aspect trompeusement semblable. Les chasseurs avaient une bonne avance sur notre groupe quand nous passâmes un sommet, et je pense qu'Avoine lui-même n'avait pas repéré la troupe d'oiseaux que nous dérangeâmes. Néanmoins, la réaction ne se fit pas attendre. Je me trouvais trop à l'arrière pour voir si les marguets furent lâchés sur un signal ou s'ils se précipitèrent d'eux-mêmes sur les proies. Les grands oiseaux corpulents se mirent à courir au sol en battant des ailes avant de pouvoir s'envoler. Plusieurs ne parvinrent pas à décoller, et j'en vis au moins deux plaqués à terre par l'effet repart alors qu'ils venaient de prendre l'air. La vivacité des félins était ahurissante. Ils s'étaient laissés glisser de leurs coussins, avaient touché le sol sans bruit, et s'étaient lancés à la poursuite des oiseaux avec la rapidité du serpent qui frappe. L'un d'eux attrapa deux proies à la fois, saisissant l'une dans ses mâchoires pendant qu'il s'emparait de l'autre et la serrait des deux pattes contre son poitrail. J'avais remarqué quatre ou cinq garçons qui nous suivaient à dos de poney. Une fois le dernier oiseau survivant envolé, ils s'avancèrent avec des gibecières pour récupérer les proies. Un seul marguet fit des difficultés pour lâcher la sienne, et je compris, aux commentaires que j'entendis, qu'il s'agissait d'un jeune animal dont le dressage n'était pas achevé. On montra les prises au seigneur doré avant de les fourrer dans les carnassières. Sidèle, qui montait à ses côtés, fit avancer son cheval pour mieux voir les trophées et poussa des cris d'admiration. Mon maître détacha les pennes de la queue de plusieurs oiseaux, puis m'appela et me dit en me les remettant
« Placez-les tout de suite dans le coffret pour qu'elles ne s'abîment pas. »
« Le coffret ?»«
Le coffret à plumes. Je vous l'ai montré à Castelserre quand nous avons préparé le voyage. Oh, par le souffle de ça, mon ami, ne me dites pas que vous l'avez oublié ?»«
Si ?»«
Eh bien, il ne vous reste plus qu'à retourner le chercher. Vous voyez de quel coffret je parle ? Celui en cuir rouge repoussé, doublé de toile. » Il se trouve sans doute dans mes affaires, à Castelmyrthe, à moins que vous ne l'ayez laissé à Castelserre. Tenez, donnez donc ces plumes à la grand-veneuse Laurier en attendant votre retour, et cravachez, Tom Blaireau, j'ai besoin de ce coffret. »
Sire Doré ne cherchait pas à dissimuler l'irritation que lui causait la maladresse de son valet. Je me rappelais en effet une boîte telle qu'il la décrivait dans son bric-à-brac, mais jamais il ne m'avait dit qu'elle était destinée à contenir des plumes, ni que je devais l'emporter à la chasse. Je pris l'air contrit qui convenait à ma négligence et hochai docilement la tête. C'est ainsi, sans plus de difficulté, que je pus quitter la chasse. Obéissant aux ordres de mon maître, je fis tourner ma jument et la talonnai, puis je passai deux collines avant de contacter Œil de Nuit avec prudence. « J'arrive.
Mieux vaut tard que jamais, »
ronchonna-t-il. Je tirai les rênes et restai sans bouger, envahi par une forte impression d'anomalie. Je fermai les yeux pour regarder par ceux du loup, et je me découvris dans une région sans traits distinctifs, aux collines et aux vallons semblables à ceux que j'avais traversés dans la matinée. Des chênes poussaient dans les creux, des broussailles grisâtres et de l'herbe jaune sur les versants. Pourtant, je savais, j'ignore par quel moyen, où se trouvait mon compagnon et comment le rejoindre. Œil de Nuit avait bien décrit le phénomène. Je savais où cela me démangeait avant même de me gratter. Sans qu'il eût besoin de m'avertir, je sentis aussi qu'il avait un bon motif de se tenir immobile. Me retenant de le contacter, je talonnai ma noire et me penchai en avant pour l'inciter à se hâter. C'était une coureuse de terrain plat et non de pays accidenté, mais elle se débrouilla bien, et je dominai bientôt le vallon où Œil de Nuit m'attendait. J'aurais voulu dévaler la pente pour le retrouver, car son silence et son immobilité étaient d'aussi mauvais augure qu'un essaim de mouche bourdonnant autour d'une flaque de sang. Cependant, je me contins et contournai largement la dépression à pas lents, en cherchant des traces au sol et en humant profondément dans l'espoir de capter des vestiges d'odeur. Je croisai les empreintes de deux montures ferrées, puis, un peu plus tard, je recoupai les mêmes marques qui allaient cette fois dans le sens inverse. Peu de temps auparavant, des chevaux s'étaient rendus dans le bosquet de chênes qui occupait le fond du vallon et en étaient repartis. Je ne pus me réfréner davantage et pénétrai dans l'ombre accueillante des arbres avec l'impression de passer la tête dans un collet.
Œil de nuit ? Ici, chut !
Il était étendu dans la pénombre sèche des chênes et haletait péniblement. Des feuilles mortes s'étaient collées sur les entailles sanglantes qui balafraient son museau et son flanc. Je me précipitai à bas de mon cheval et courus vers lui. Quand je posai mes mains sur sa fourrure, ses pensées se déversèrent dans les miennes sous la forme la plus discrète du partage du vif.
Ils ont opéré ensemble contre moi.
Le garçon et la Marguette. Je m'étonnais de sa surprise. Le prince et le petit félin étaient liés par le vif. Il était naturel qu'ils agissent de concert.
Non, la Marguette est le cavalier qui a amené les chevaux. Le garçon était dans l'arbre et je ne l'ai pas quitté des yeux un instant. Je n'ai rien capté de sa part. Aucun appel à l'aide. Pourtant, juste après l'aube, cette satanée Marguette m'a attaqué. Elle est tombée sur mon dos sans crier gare. Je n'avais rien vu venir. Elle a dû se déplacer d'arbre en arbre à la façon des écureuils. Elle s'est accrochée à moi comme une ronce, mais j'ai réussi à la jeter par terre, et je croyais prendre l'avantage quand elle m'a serré entre ses pattes de devant et a tenté de m'éventrer avec celle de derrière. Elle aurait bien failli y parvenir si l'homme n'était pas arrivé avec les chevaux. Le garçon a sauté en selle du haut de l'arbre, et en un clin d'œil, la Marguette est montée derrière lui. Ils sont partis au galop en me laissant ici.
Fais-moi voir ton ventre.
À boire d'abord, avant que tu me tripotes.
À mon grand agacement, Manoir s'écarta de moi par deux fois avant que je puisse saisir ses rênes. Je l'attachai solidement à un buisson, puis rapportai de l'eau et de quoi manger à Œil de Nuit. Il se désaltéra dans mes mains en coupe, puis nous partageâmes les vivres. J'aurais voulu nettoyer le sang de ses entailles, mais je savais qu'il refuserait.
Laisse-les se refermer seuls. Je les ai léchées. Elles sont propres.
Montre-moi celle de ton ventre au moins. Il obéit sans enthousiasme. Je constatais des dégâts beaucoup plus considérables, car la Marguette avait manifestement réussi à le tenir tout contre elle, et l'abdomen du loup ne bénéficiait pas de l'épaisse toison qui protégeait son dos. Les blessures n'étaient pas nettes, mais déchiquetées, et elles commençaient à s'infecter. Seul aspect positif, les griffes n'avaient pas tranché les muscles du ventre. J'avais craint une éviscération. Toutefois, je n'avais sous les yeux que des blessures spectaculaires, certes, mais superficielles. Je me reprochais amèrement de ne pas avoir sous la main de baume apaisant. Il y avait trop longtemps que je n'avais pas eu à traiter ce genre de cas, et j'étais devenu négligent.
« Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? Tu te trouvais trop loin pour arriver à temps, et puis... »
Je perçus le trouble de ses pensées.
« Je crois que c'est ce qu'il voulait, l'homme au grand cheval et la Marguette. Ils étaient tout ouïs, et ils guettaient mon appel, comme s'il s'agissait d'une proie qu'ils attendaient de débusquer. »
Mais pas le prince.
« Non, mon frère, ce qui se passe ici est très étrange. Il a été très étonné à l'arrivée du cavalier et du cheval supplémentaire. Mais j'ai senti que ce n'était pas une surprise pour la Marguette. Elle les attendait. Le prince ne perçoit pas tout ce qu'entend sa compagne de vif. Il se jette aveuglément dans le lien. C'est inégal. L'un s'engage totalement, l'autre accepte cet engagement, mais ne le rend pas complètement. Et puis, la Marguette... Elle n'est pas normale. »
Il fut incapable d'éclaircir davantage sa déclaration. Je restai un moment assis près de lui, les doigts enfoncés dans sa fourrure, à me demander que faire. Le prince avait de nouveau disparu. Quelqu'un qu'il n'avait pas appelé était venu l'emporter au moment précis où la Marguette avait distrait l'attention du loup. Mais l'emporter où ?
Je les ai poursuivis quelque temps, mais tu avais raison, je ne suis plus capable de soutenir l'allure d'un cheval au galop.
Tu n'en as jamais été capable.
Bah, toi non plus. Tu n'as même jamais pu rivaliser longtemps avec un loup à la course.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je lissai ses poils, puis voulus retirer une feuille morte collée à l'une de ses blessures.
N'y touche pas ou je t'arrache la main.
Et il ne plaisantait pas. Rapide comme un serpent, il avait saisi mon poignet entre ses crocs. Il serra légèrement la mâchoire, puis me lâcha.
« Ça ne saigne plus. Alors, n'y touche pas. Cesse de m'agacer et essaye plutôt de les rattraper. »«
Et si j'y arrive, qu'est-ce que je fais ?»«
Commence par tuer la Marguette. »
Je sentis un désir de vengeance où ne se mêlait nulle pitié. Pourtant, Il savait aussi bien que moi la souffrance que subirait le prince si j'éliminais son animal de lien.
Ouais, je le sais. Dommage qu'il ne partage pas tes scrupules quand il s'agit de tuer ton frère de vif. Il ignore que tu es lié à moi. Ils savaient tous que j'étais lié à quelqu'un et ils auraient bien voulu apprendre à qui. Ça ne les a pas empêchés de me faire du mal.
Son esprit avait une longueur d'avance sur le mien, et il réfléchissait à une situation que j'en étais encore à démêler.
Sois prudent, changeur. J'ai déjà vécu cela. Tu crois qu'il s'agit d'une sorte de jeu, avec des limites et des règles définies, où tu as pour rôle de ramener le prince comme une mère rapporte à la tanière un petit égaré. Tu n'as pas songé un seul instant que pour cela, il te faudrait peut-être le blesser ou éliminer sa marguette, et tu as encore moins imaginé qu'on risquait de te tuer pour t'empêcher de le reprendre. Je reviens donc sur ce que j'ai dit. Ne te lance pas à leur poursuite, en tout cas pas tout seul. Laisse-moi jusqu'au soir pour me remettre de mes blessures, puis emmenons-le sans odeur pour les pister. Il est astucieux, à la manière d'un humain.
Tu crois le prince capable de me tuer pour éviter de retourner à Castelserre? Cette idée m'horrifiait. Pourtant, j'étais plus jeune que de voir la première fois que j'avais assassiné quelqu'un sur l'ordre d'Imbre. Je n'y avais guère pris plaisir, mais je n'avais pas beaucoup réfléchi non plus à la justice ou l'injustice de mon geste. Imbre me tenait lieu de conscience alors, et j'avais fait confiance à sa liberté de choix. Une question me vint à l'esprit. Existait-il un individu semblable dans la vie du prince, quelqu'un devant qui il suspendait tout jugement personnel?
Cesse de croire que nous avons affaire à un jeune prince, car c'est faux. Ce n'est pas non plus de la Marguette qu'il faut nous méfier. Nous sommes face à une adversité plus grande et plus étrange, mon frère, et nous ferions bien de faire très attention où nous mettons les pieds.
Il termina ma provision d'eau, puis je le laissai sous les chênes et m'en allai à contre-cœur. Sans chercher à suivre la piste de ses agresseurs, je retournai au manoir Brisinga de Castelmyrte, trouvai le coffret à plumes et regagnai le groupe de chasse. Il s'était déplacé, mais je n'eus pas de mal à en repérer la trace. Quand je lui tendis le boîtier, Sire Doré remarqua
« Il vous a fallu longtemps pour le rapporter, Tom Blaireau. »
Il jeta un coup d'œil à ses compagnons.
« Enfin, j'avais craint bien pire. J'ai failli croire que vous vous étiez senti obligé d'aller le chercher jusqu'à Castelserre. »
Et tous de s'esclaffer de ma supposée lenteur d'esprit. J'acquiesçai docilement. « Pardonnez mon retard, maître. Il n'était pas rangé où je le pensais. » Il accepta mes excuses d'un hochement de tête, puis me rendit le coffret.
« Allez demander les plumes à maîtresse Laurier et veillez à les ranger avec soin. »
La jeune femme tenait à la main une quantité respectable de peine. Le coffret rouge s'ouvrait comme un livre et l'intérieur était garni de feutrines pour éviter d'abîmer le contenu. Je le tins devant Laurier pendant qu'elle y plaçait minutieusement les plumes. Le reste de la troupe poursuivit son chemin sans paraître nous prêter attention. « Les Marguets chassent bien ?» demandai-je à la grand-veneuse.
« Très bien. C'est un spectacle étonnant à regarder. J'avais vu le brumier du prince en action, mais jamais des féropards. On les a lâchés deux fois sur des oiseaux et une fois sur des lièvres depuis votre départ.
Vous croyez que la chasse va durer encore longtemps ?»«
Ça m'étonnerait.
Le seigneur Doré m'a confié que sa peau ne supporte pas le soleil de midi et qu'il risque d'attraper la migraine. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à rebrousser chemin. »
Ça m'irait à merveille, à moi aussi.
Nos compagnons nous avaient à présent distancés et bavardaient entre eux. Laurier referma le coffret et me le rendit, puis nous rattrapâmes le gros de la troupe. Alors la jeune femme se tourna vers moi sur sa selle et me dit, les yeux dans les yeux,
« Vous ne paraissiez pas le même homme hier soir, Tom. Vous devriez soigner davantage votre aspect pendant la journée. Le résultat en vaut la peine. »
Ces propos me laissèrent pantois. Elle sourit de me voir bouche bée, puis talonnant sa monture, elle me laissa en compagnie des autres domestiques pour rejoindre le seigneur Doré. J'ignore ce qu'ils se dirent, pour autant qu'ils se fussent parlé, mais il fut bientôt décidé de rentrer à Castelmyrte. L'égyptière était lourde. Le soleil à la verticale devenait cuisant, et les marguets apparemment énervés semblaient avoir perdu leur intérêt pour la chasse. Les nobles tournèrent donc bride et pressèrent leurs montures pour regagner la fraîcheur qui régnait entre les épais murs de pierre de Castelmyrte. Les domestiques suivirent le mouvement tant bien que mal. Manoir, elle, n'eut aucune difficulté à soutenir l'allure, bien que notre trajet s'effectuât dans le nuage de poussière soulevé par la tête de la troupe. L'aristocratie se retira dans ses appartements pour se laver et changer de vêtements, tandis que la roture s'occupait de ses chevaux suants et de ses marguets irritables. J'emboîtais le pas à Sire Doré, qui s'engageait à grandes enjambées dans les couloirs du manoir, me précipitait pour ouvrir sa porte devant lui, puis, une fois qu'il fut entré, la refermait et mit discrètement le loquet. Quand je me retournais, il était déjà en train de se nettoyer le visage et les mains. « Que s'est-il passé ? » me demanda-t-il. Je lui racontai ce que j'avais appris.
« Comment va-t-il ? »
s'enquit-il d'un ton inquiet. « Le prince ? Que veux-tu que j'en sache ? » ?»«
Non, œil de nuit !» répondit le fou avec impatience.
« Ah ! Aussi bien que possible. Je lui apporterai de l'eau et de quoi manger quand je retournerai le voir. Il avait mal, mais il n'est pas à l'agonie. » L'aspect enflammé de ses blessures m'avait toutefois inquiété, et on aurait dit que le fou avait lu mes pensées, car il déclara
« Je possède un baume qui pourrait apaiser ses douleurs, s'il accepte que tu le lui appliques. »
Je ne pus m'empêcher de sourire. Ça m'étonnerait, mais je serais soulagé d'en avoir sous la main.
« Bien, il ne me reste plus qu'à inventer un prétexte pour quitter Castelmyrte, tout de suite après le déjeuner avec la grand-veneuse et toi. Il ne faut pas laisser refroidir la piste. » Et il est peu probable que nous revenions ici. »
Tout en parlant, il avait changé de veste, passé une brosse sur ses chausses et donné un coup de chiffon à ses bottes. Il observa son reflet dans le miroir, puis peigna rapidement ses cheveux fins. Des mèches pâles flottèrent à la suite du peigne et s'y collèrent. D'autres, plus courtes, au niveau de ses tempes, restèrent hérissées comme des moustaches de chat. Avec une exclamation agacée, il réunit sa chevelure en queue et la matin en place à l'aide d'une grosse barrette d'argent.
« Là, comme ça, ça tiendra. Préparez nos bagages, Tom, et tenez-vous prêt à vous mettre en route quand je reviendrai du repas. »
Et il sortit. Il restait sur la table des fruits, du fromage et du pain de ma collation de la veille. Le pain était un peu rassis, mais mon appétit se rit de tels détails, et je mangeais tout en empaquetant mes affaires. La garde-robe de Sire Doré me posa davantage de problèmes, car j'étais incapable de me rappeler comment il avait réussi à faire entrer une si grande quantité d'effets dans un coffre de taille aussi réduite. À force, je parvins à y fourrer tous les habits de mon maître. Mais je ne pus m'empêcher de me demander dans quel état ces belles chemises allaient ressortir. Le déjeuner n'était pas encore fini quand j'achevais nos préparatifs, et j'en profitais pour me rendre discrètement aux cuisines, déguster une chope de bière fraîche, accompagnée de saucisses aux épices. La formation qu'Imbre m'avait donnée autrefois me fut fort utile, car quand je remontais, j'emportais plusieurs tranches de rôti froid dissimulées sous le plastron de ma tunique de domestique. Je passais le début de l'après-midi dans nos appartements, à attendre avec impatience le retour du Seigneur Doré. Je mourais d'envie de contacter le loup, mais je n'osais pas. Et, à chaque instant qui s'écoulait, le prince s'éloignait peut-être un peu plus. La journée avançait et je ne pouvais rien faire. Je finis par m'affaler sur mon lit, et malgré mes inquiétudes, je dus m'endormir. Je m'éveillai en entendant Sire Doré ouvrir la porte. Je me levai, abruti de sommeil, mais pressé de me mettre en route. Le fou referma le bâton derrière lui et, en réponse à mon regard interrogateur, déclara d'un ton lugubre. « Il s'avère socialement difficile de nous dégager. Il y avait des hôtes au déjeuner, en plus de ceux que nous connaissons déjà. Les Brezinga tiennent apparemment à m'exhiber devant tous leurs voisins fortunés. Ils ont déjà lancé des invitations à la moitié de la région pour des dîners et des réceptions, et j'ai été incapable d'imaginer une raison assez urgente pour motiver notre départ. » C'est extrêmement contrariant. Ah, que je regrette ma livrée de bouffon. Au moins, quand je jonglais et que je faisais le funambule, ce n'était pas pour tricher.
Nous ne partons pas, dis-je stupidement.
Non, un grand banquet est organisé en mon honneur ce soir, et ce serait insulter les Brezinga que de nous éclipser alors que tout est prêt. De plus, Quand j'ai laissé entendre que je risquais d'écourter mon séjour et de partir demain matin, on m'a répondu que le seigneur Crias, de l'autre côté de la rivière, m'avait préparé une chasse matinale suivie d'un festin en son manoir.
Ils font exprès de te retenir. Les Brésingas sont impliqués dans la disparition du prince. Je suis sûr que c'est à lui et à sa Margaret qu'était destiné le panier à provisions que j'ai vu hier soir. Quant à Hugh de Nuit, il est convaincu que ses assaillants savaient qu'il était lié à quelqu'un par le vif. Ils espéraient me débusquer en s'en prenant à lui.
Peut-être, mais même si nous étions sûrs de nous, je me verrais mal lancer des accusations sans preuve. Or, nous n'avons aucune certitude. Ces gens cherchent peut-être seulement à gagner des places à la cour ou à me présenter leurs diverses filles à marier. Si j'ai bien compris, c'est pourquoi Sidel participait au repas d'hier.
Je croyais que c'était la fiancée de Civil.
Elle a pris grand soin, pendant la partie de chasse, de m'expliquer qu'ils étaient amis d'enfance et qu'il n'y avait absolument rien d'autre entre eux.
Le fou soupira et s'assit à la petite table.
Elle m'a dit faire, elle aussi, collection de plumes, et elle souhaite me les montrer ce soir après le dîner. Je suis sûr que c'est une invention pour passer encore du temps en ma compagnie.
Si je n'avais pas été accablé de soucis, sa mine déconfite m'aurait fait sourire.
Enfin, je vais tâcher de faire front du mieux possible. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, peut-être arriverai-je à tourner la situation à notre avantage. Ah oui, j'ai une mission pour toi. J'ai perdu une chaînette d'argent aujourd'hui pendant la chasse, je suppose. Je me suis rendu compte de sa disparition pendant le repas. C'est un de mes bijoux préférés. Tu vas devoir reprendre le chemin que nous avons suivi pour voir si tu peux le retrouver. Prends tout ton temps.
Tout en parlant, il avait sorti un collier de sa poche et l'avait enveloppé dans son mouchoir avant de me le tendre. Il ouvrit son coffret à vêtements, resta un instant en arrêt devant la masse informe de tissu compacté, me jeta un regard de reproche, puis fouilla ses effets jusqu'à ce qu'il trouve le pot de baume qu'il me remit. « Désirez-vous que je vous sorte une tenue pour le dîner avant que je m'en aille ?» Il tira une chemise froissée de son coffre et prit un air ironique.
« Je crois que vous en avez assez fait pour moi, Blaireau. Mettez-vous en route sans plus tarder. »
Comme je m'approchais de la porte, il me rappela.
« La jument te convient-elle ? »
« Très bien, lui assurai-je. C'est une bête de bonne qualité, en excellente santé et rapide, comme elle nous l'a démontré. Tu as bien choisi.
Mais tu aurais préféré choisir toi-même ta monture. »
Je faillis répondre par l'affirmative, mais en réfléchissant, je m'aperçus que c'était faux. Si j'avais eu voix au chapitre, j'aurais recherché un compagnon qui aurait traversé les années avec moi, et il m'aurait fallu des semaines, voire des mois, pour me décider. Or, à présent que je prenais conscience, malgré que j'en eusse, de la mortalité du loup, j'éprouvais une étrange réticence à tant m'investir dans un animal. « Non, dis-je avec sincérité, il vaut bien mieux que tu t'en sois chargé. C'est une bonne bête, tu as bien choisi. »«
Merci, » murmura-t-il.
On aurait dit qu'il attachait une grande importance à la question, et j'aurais pris le temps d'y réfléchir si le loup n'avait pas attendu ma venue.